Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui n'a pas peur de dénoncer les stéréotypes de la société et de parler sans langue de bois de ses propres choix de vie. On y va. Pour notre femme d'aujourd'hui.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Ikram Qantri, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Ikram, comment ça va?
Bonjour Yasmine, merci à toi. Moi, je vais très très bien. La vie est belle, on continue en avance. Et
Alhamdoulilah.
Voilà.
Alors Ikram, on ne se connaît pas du tout. Et pourtant, vous avez accepté d'être ma femme d'aujourd'hui.
Oui, ben on se connaît pas. Peut-être moi je te connais un peu plus car
oui, c'est réseau, vrai,
à ton exposition vrai. Heureusement. Et puis donc j'ai vu ton appel à des femmes pour pouvoir participer. Moi,
ouais.
je me suis portée volontaire avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. J'ai pu entendre surtout d'autres podcasts et j'étais toujours influencée, émerveillée de découvrir toutes ces facettes des femmes marocaines qui brillent un peu partout. Voilà, donc c'était ma motivation.
Eh ben super. Justement, j'allais poser la question, qu'est-ce qui vous a donné confiance en ce rendez-vous? Pourquoi vous avez voulu aussi partager votre expérience?
D'une part, c'est vous, votre personne. Vous êtes une femme brillante et magnifique qui illumine la journée de toutes les femmes. J'imagine pour celles qui vous suivent sur les réseaux, c'est sans filtre, une vraie femme authentique qui assume son identité, sa féminité. Et ça, c'est... Je vais dire que ça devient, on commence à le voir dans notre société et j'en suis très très fière de briser ces tabous, ces clichés que la femme marocaine dans lesquels la femme marocaine a été séquestrée pendant des années. Et je vous en félicite et puis aussi à découvrir tous les parcours des femmes merveilleuses que vous avez pu interviewer ou hoster pendant vos podcasts. Et ça aussi, j'aurais aimé. J'avais cette envie de partager un petit peu mon expérience de vie et puis apporter ma pierre à l'édifice pour dire à toutes ces femmes que vous n'êtes pas toutes seules. Moi aussi, j'en fais partie.
Ah bah, c'est magnifique. Alors, voilà. Ikram, justement, qu'est-ce qui vous a construit en bien et en moins bien, en expérience positive et en expérience plus compliquée, on va dire, pas moins bien, mais plus compliquée, et qui fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui?
Bon, je pense que je vais commencer par le début.
Ouais.
Étant plus jeune, en petite fille très naïve, et dans ma candeur de jeunesse, je pense, j'avais un plan de vie assez typique, c'est-à-dire une carrière avec des études bien tracées, un parcours bien défini, en pensant que ça allait être linéaire. Malheureusement, heureusement aussi, ça ne l'a pas été parce que c'était pas toujours linéaire. J'ai commencé par faire un doctorat en chimie. J'étais fascinée par la matière. J'ai fait des études au Maroc et à l'étranger. Et j'ai toujours réussi, si j'ose dire. La partie scolaire en moi était toujours très bien. Sauf que j'étais heurtée à un moment par la réalité du marché marocain où la recherche et le développement n'était pas un secteur porteur vraiment à l'époque. Ça remonte à une dizaine d'années en arrière.
D'accord.
Donc, donc tout le monde qui dit que non, si vous avez fait un doctorat, vous devez aller vers l'enseignement. Mais moi, je ne veux pas faire ça. C'est pas ma vocation, c'est pas ce que je cherche à faire. Bon, à ce moment, je me suis rendu compte qu'il fallait... trouver mon épanouissement à travers sous d'autres cieux. Donc, j'ai commencé à travailler dans le domaine social où j'ai travaillé sur des programmes internationaux pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et là, j'ai compris la souffrance de la femme marocaine, cette femme qui est abusée dans toutes les dimensions, on va dire.
C'est vrai,
physiquement,
vous le voyez comme ça?
Ah ben oui, il y en a, malheureusement.
Ouais.
Heureusement, nous, peut-être on le subit pas, mais j'ai vu ça de près.
Oui,
et malheureusement, le pire, c'est que ça devient tellement banal et naturel qu'il n'y a pas de rejet ou de révolte contre cet abus, que ça soit physique, que ça soit économique, que ça soit moral et mental et autre. Sexuelle encore, et donc ça m'a beaucoup apporté. à le fait d'avoir connu ces femmes, que ce soit des femmes mariées, abusées et mises à la, qui ont été jetées dans la rue par leur mari, si on ose dire que c'est un mari et un conjoint, par leur famille, que ce soit des mineurs qui ont été jetés dans la nature par leur famille et abandonnés, que ce soit des mamans célibataires. Oui, ouais, exactement.
Mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous en tant que femme, justement?
Déjà la reconnaissance à la vie, parce que moi j'ai reconnu la chance que j'ai pu avoir en étant dans une famille élevée par des parents qui m'ont toujours poussée à être une femme forte, à m'exprimer, à reconnaître mon identité de femme et à l'exprimer dans la société, d'une part, et de deux, et j'étais aussi fière d'apporter ce caractère à ces femmes. Malheureusement, c'était pas toujours simple. Parce que, on va dire, elles étaient conditionnées par ce qu'elles ont vécu. Et des fois, elles retombaient. Il y avait des prostituées aussi avec lesquelles on travaillait pour les faire sortir de cette vie très dark. Malheureusement, on les voyait retomber dans les mêmes schémas et malgré les efforts. Mais ça n'empêche que le fait d'essayer de les extriper de ça et leur apporter de la formation, de retrouver des travails décents et tout ça, ça commençait à bousculer un petit peu leurs croyances propres et puis à les orienter, les aiguiller vers d'autres horizons de vie, je vais dire.
Alors, Ekrem, peut-être une question quand même de la recherche scientifique, d'un doctorat, un travail vraiment presque d'assistante sociale.
Plus ou moins. C'est pas vraiment ça. Moi, j'étais dans la coordination de projet, mais j'étais très touchée par l'humain et ça m'a beaucoup apporté sur le plan humain et le plan personnel. Et c'était une capacité aussi de ma part de m'adapter à différentes choses. Ça m'a aussi permis de mieux me connaître moi, ma capacité à l'adaptation, ma résilience. Mon envie d'épanouissement qui est très très forte et je suis quelqu'un qui est drivé tout le temps par la passion et quand il n'y a pas de passion, je suis comme une petite fleur qui commence à ternir et
il
faut toujours raviver cette passion.
Pour arriver au doctorat, c'est des années d'études. Vous avez étudié pendant combien d'années? 8 ans, 9 ans, 10 ans?
Oui, c'est un bac plus plusieurs années.
Plus, exactement. Et j'ai pas compris,
c'est
vous
pas
avez...
fini, c'est pas fini.
Oui, mais vous avez mis ça entre parenthèses et vous l'avez mis de côté?
Ben voilà, j'étais rappelée par la suite par ce premier amour et cette vocation de chimiste.
Ouais.
Donc en 2017, j'étais rappelée par ça et j'ai pu trouver ma voie au Maroc vers un centre de recherche qui est merveilleux, qui est la Fondation Masseur, je ne sais pas si les gens connaissent, qui fait uniquement de la recherche et développement orienté marché. Et j'ai pu travailler dans ce domaine qui m'a toujours fascinée. Donc ça, c'était en novembre 2017. J'ai commencé le travail de comme étant chercheuse dans cette entité. Et je ne vous dis pas, c'était l'euphorie totale. J'ai retrouvé mes petites joies de jeunesse, ma fougue aussi de jeunesse. Et en mars 2018, j'ai fait une rencontre très peu probable. J'avais à l'époque 32 ans et j'étais diagnostiquée d'un cancer.
Bon, d'accord.
Là, ça
32 ans.
Peu... Oui.
Un
oui,
cancer de quoi?
Un cancer du sein.
D'accord.
Alors okay. que rien dans ma vie ne me prédestinait à ce destin, on va dire.
Bah,
j'avais pas d'antécédent familial. Exactement. Et puis il y avait pas d'antécédents familiaux. Il y avait pas de. J'avais un rythme de vie très très sain. Je suis toujours très sportive. Je m'entraîne 5 à 6 jours par semaine.
D'accord.
Je faisais très attention à ce que je mangeais, mais pourtant c'était là.
C'est alors vous l'avez détecté comment, Ekrem?
Bon. Comment
vous l'avez...
Ça c'était un jour en rentrant du boulot vers 18 heures. Je me changeais pour aller justement faire mon sport. Et par pur miracle ou magie ou volonté divine, on peut mettre beaucoup d'adjectifs dessus.
Ouais.
Voilà. Après, une petite gouttelette de sang sur le mamelon de mon sein gauche.
D'accord.
Bon,
okay.
C'était vraiment. Je ne sais pas si vous voyez le phénomène du lotus, la petite feuille de lotus. On voit la petite gouttelette qui pend dessus.
Oui,
elle s'étale jamais. C'était comme ça. On dit que c'est très peu probable d'avoir un phénomène pareil, surtout que je mettais mon soutien-gorge, mon pull, mon sous-pull, tout. Donc rapidement, je suis partie consulté. Les médecins m'ont rassuré au début. Clairement, ça peut être juste un petit papillon qui va partir. Et au fur et à mesure, le topo commençait à se dresser. C'était un cancer. Heureusement, j'ai eu de la chance parce que ça a été détecté très, très tôt.
Oui.
Donc, j'ai pas eu d'attente ganglionnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de métastase, c'était une petite tumeur qu'on a pu traiter par ablation de la tumeur. Et puis après, j'ai quand même eu le droit à la chimio, à la radiothérapie. Et
d'accord.
Voilà. C'était compliqué physiquement, peut-être au quotidien. Mais
par rapport aux soins, aux traitements, c'est ça qui était
compliqué. Oui, c'est des traitements qui sont assez lourds. On va pas se le cacher, mais ouais. en même temps, ça m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire que après avoir vécu ça, on relativise beaucoup par rapport à nos priorités de vie.
C'est vrai.
Oui, on cherche l'essentiel, l'essence de ce qu'on est, de ce qu'on veut être et de ce qu'on veut vivre. Et puis, on devient plus vivante. Ça, c'est le plus sûr.
Mais vous étiez déjà très vivante, Ekrem.
Oui, mais la vie, oui, ça c'est clair, mais on a quand même une tendance de procrastiner certaines choses qui nous tiennent à cœur.
Ah.
Après cette expérience, non. On y va direct. On ne fait pas trop le grand tour, on y va direct et ça devient une priorité. Soit devient une priorité aussi, on devient un peu égoïste, mais ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'on se priorise et c'est toujours une très bonne chose aussi. Savoir se prioriser, être le centre de sa propre vie, parce que ça ne peut pas être que, autre que ça.
Que pour les autres.
Oui, c'est bien d'être altruiste et considérer les autres, d'être dans l'empathie, apporter aux autres, mais il ne faut pas se négliger. On a tendance à se négliger dans certaines phases de nos vies. Et voilà, donc cette maladie m'a appris surtout à prendre les choses, à savoir prioriser les choses, les événements de ma vie, et puis pouvoir affirmer mon identité aussi de femme, comme je le suis physiquement et intellectuellement, et pouvoir aussi rompre avec les stigmates de la société, parce que pendant des années, je recevais des messages du genre « Où est-ce que tu es ?»« Où est-ce que tu l'aides ?» C'est l'âge et tout. Moi, j'avais une vision différente. J'avais pas envie d'être dans ce moule de la vie. Et après la maladie, j'étais capable de l'affirmer, de le dire en face à ma famille. Je ne critique pas les autres, mais ça veut pas dire que ça me convient à moi, que chacun, on a droit d'avoir des chemins de vie différents. Et c'est ce qui fait la richesse de cette vie. Et voilà, donc j'étais capable de dire non à certaines choses qui ne me convenaient pas. Et d'affirmer ce que je voulais comme je le souhaite.
Et est-ce qu'on l'accepte plus parce que justement, on sait que vous êtes passé par des moments difficiles. Est-ce que finalement, la société, cette société très proche de vous, c'est-à-dire cet entourage très proche, la famille, est moins exigeante, devient moins exigeante lorsqu'on est passé par des moments aussi difficiles?
Je ne sais pas si on réussit à façonner les gens et leur façon de réfléchir, mais au moins, à un moment, on réussit à imposer ce qu'on veut et à les faire taire. Ça, c'est aussi important, parce que ne plus écouter des voix qui ne nous ressemblent pas ou qui ne nous conviennent pas, et puis aussi dépouiller son entourage, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de subir des personnes et des pensées qui ne nous conviennent pas. On a droit de mettre des barrières et être en harmonie avec soi et dans sa vie. Oui, ça, c'est
alors,
aussi important.
Donc, vous avez fait le choix conscient de ne pas rentrer dans les standards de la société, c'est-à-dire le mari, les enfants. Pour le mari et les enfants, non.
Oui, les enfants, c'est catégorique dans ma tête aujourd'hui. C'était quelque chose que j'ai toujours dite, mais aujourd'hui, c'est un non.
Pourquoi ?
C'est un non, parce que je ne suis pas prête à faire subir à un être humain une vie. Est-ce que moi je suis prête à être une maman? Déjà, il faut travailler là-dessus. Parce que si on ramène un être humain, c'est pour le préparer à être autonome. Est-ce que je suis prête à ramener quelqu'un et me détacher de cette personne et la laisser vivre sa vie en toute liberté? C'est autant de questions qu'on se pose. Après,
je respecte beaucoup,
de choses
ces questions. Pardon, Ekrem, je respecte beaucoup ces questions que vous vous posez parce que nombreuses et nombreuses sont ceux qui ne se les posent pas parce que fonder une famille est considéré comme naturel, comme allaiter est considéré comme naturel. Et la personne, par exemple, la future maman qui choisit de ne pas allaiter est considérée comme hors norme. La femme qui décide de ne pas avoir d'enfant est considérée comme hors norme aussi.
Oui. Mais c'est vrai, aujourd'hui, à chaque fois que je dis ça devant quelqu'un, et les gens sont généralement assez choqués, on me traite d'anticonformiste juste parce que ça fait polémique et ça pourrait attirer un peu l'attention, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste un choix délibéré et réfléchi. Aujourd'hui, de mes 37 ans, j'ai le droit d'avoir mener ma réflexion et avoir un avis et une opinion bien tranchée là-dessus. C'est juste ça.
Mais qu'est-ce qui vous fait peur, justement, le fait d'avoir des enfants? Pourquoi vous vous dites, est-ce que je suis prête à me détacher? On ne peut pas le savoir si on ne le vit pas.
Écoutez, on peut se connaître aussi après des années de vécu
avec soi.
On se connaît assez bien pour ça. Après, il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu.
Ouais.
C'est le monde d'aujourd'hui, c'est la pollution, c'est le patrimoine génétique que tu vas transmettre à tes enfants. C'est autant d'incertitudes. Est-ce que moi, j'ai le droit de le faire je ne sais pas. J'ai une vision bien, bien particulière là-dessus. Après, ça pourrait ne pas résonner chez tout le monde, mais
bien sûr.
Moi, mon combat, c'est pas de prêcher les gens pour penser comme moi, mais c'est surtout faire accepter ça aux gens. C'est-à-dire que il y a le moule, il y a des choses en dehors du moule. Il y a beaucoup de choses. On est plusieurs individus avec des schémas de vie très différents les uns des autres et pour bien vivre, il faut juste s'accepter mutuellement tel qu'on est et que nous sommes. Et arrêter de faire de nous des schizophrènes ou des hypocrites sociaux. Parce qu'à force de se sentir jugé, si j'ose dire, on est obligé de jouer un rôle pendant toute la journée devant les gens, qu'on se sent déformé le soir en rentrant dans nos retranchements personnels et on se sent un petit peu déboussolé entre soi et soi-même. Voilà.
Alors, et un homme dans votre vie, Ekrem, est-ce que ça vous l'envisagez?
Oui, ça c'est très envisageable, clairement.
Mais il faut qu'il soit lui aussi aligné avec votre état d'esprit, c'est-à-dire pas d'enfant, construire une vie à deux.
Qu'il le respecte, ou encore qu'il en ait déjà par une autre vie. Je ne suis pas contre ça, c'est des choix personnels aussi.
Avec vous, pas d'enfant.
Ah oui.
Est-ce que c'est le cancer qui vous fait peur?
Non.
C'est pas ça.
C'était quelque chose qui était là dans ma tête depuis toujours. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont fait qu'aujourd'hui, j'en ai pas envie. Peut-être que ça remonte de l'enfance et tout, peut-être. Mm. Mais certainement, c'est pas que le cancer. Le cancer m'a fait dire ça, surtout. Et juste pour l'anecdote, histoire de dire les choses, je vais paraître un peu antagoniste entre moi et moi-même, mais pendant le cancer, pendant mon diagnostic, parmi les effets secondaires d'une chimiothérapie, c'est une ménopause.
D'accord, précoce.
Oui, exactement. Aujourd'hui, heureusement, c'est pas le cas pour moi, mais le moment où j'ai découvert tout ce parcours thérapeutique que j'allais suivre, donc j'avais discuté avec mon médecin traitant, mon gynécologue, et on avait fait le choix de faire une conservation d'ovocytes à ce moment du traitement. Et donc j'ai fait ce chemin aussi. Vous allez me dire, mais pourquoi faire un chemin alors que vous saviez que...
Parce qu'on n'est jamais sûr à 100%.
Ça, c'est d'une part, c'est toujours à garder ses options, c'est toujours bénéfique. Et
bien
aussi, c'était pendant cette période assez compliquée de ma vie, c'était aussi thérapeutique parce que c'était une connexion avec la vie, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà.
Non, mais vous avez le droit de... Mais c'est bien, vous avez le droit de prendre les décisions que vous voulez, en fait. Et au risque de paraître antagoniste, mais voilà, c'est des décisions assumées. Tant que ça vous fait du bien, c'est une bonne chose, c'est le plus important.
Exactement, c'est un petit peu ça la démarche. C'est aujourd'hui, parce que si tu grilles toutes tes cartes d'un coup, après, ça ne sert à rien de regretter. Il faudra juste... ça c'est ma déformation professionnelle. Il faut voir tous les paramètres pour gérer le projet de vie.
Absolument, il faut avoir tous les paramètres en main.
Exactement.
Pour avoir la bonne composition et puis rester flexible.
La bonne réaction, ouais,
absolument.
Exactement.
La bonne réaction chimique.
Exactement, c'est exactement ça. Il faut que ça marche.
Mais parfois, est-ce que les gens peuvent être agressifs avec vous quand vous exposez votre façon de voir la vie?
Oui, j'étais déjà agressée directement ou un passif agressif aussi, j'en ai reçu. Et voilà, mais après, on devient, je ne sais pas un terme anglais, je vais faire un anglicisme, c'est we become thick skin, c'est-à-dire qu'on devient un peu perméable par rapport à ses comportements avec l'âge, je pense.
Absolument.
Après, chacun, oui, moi, j'interfère pas dans les choix des gens et puis j'ai le droit de faire les miens et puis voilà, c'est juste ça.
Alors, Ekram Kantari, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Comment va le cancer aujourd'hui?
Ben, le cancer, c'est derrière. J'espère qu'il m'a oublié. Moi, en tout cas, j'ai commencé à l'oublier déjà. Ouais. J'en parle parce qu'il faut bien en parler. Et voilà, sensibiliser les gens et les encourager à aller faire un dépistage précoce parce que ça fait la différence. Aujourd'hui, si je peux dire que je suis guérie, c'est grâce à ce dépistage qui a été fait très tôt. Et j'aimerais bien que toutes les personnes qui vous écoutent puissent vivre une longue vie en toute santé. La mort, c'est inéluctable. On va tous passer par là. Mais l'essentiel, c'est que tant qu'on est sur Terre, on vivra en bonne santé, Inch'Allah, jamais. Ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Beaucoup de santé à tout le monde. Et puis, beaucoup de belles choses dans l'avenir à moi et à vous tous.
On l'espère aussi, justement. Voilà. Et la recherche scientifique, comment ça va?
Ben, la recherche scientifique au Maroc, et je suis très très fière, elle a pris les bonnes rails aujourd'hui, avec toute la volonté commune, que ce soit des pouvoirs publics, que ce soit des individus, et amassé, on a pu réaliser des exploits, on a pu faire pendant le Covid, on a pu développer pendant le Covid des kits PCR pour le dépistage du Covid-19. Qui a été commercialisé au Maroc et en Afrique. On en est très, très fiers. On a pas mal de start-up qui commercialisent aujourd'hui des produits de la R&D marocaine. Et on s'agrandit, on ne cesse de grandir et de s'agrandir. Et ça fait chaud au cœur. Et depuis que moi, j'ai eu ce cancer, malheureusement, j'ai rompu avec le laboratoire, mais je baigne toujours dans ce domaine de la R&D. C'est-à-dire que j'ai changé de carrière, j'ai fait une reconversion. Je fais aujourd'hui du développement d'affaires ou du business dev pour la promotion de cette R&D au national et régional et international. Et j'ai continué dans la formation aussi. Aujourd'hui, j'ai commencé un MBA que j'avais bientôt terminé, Inch'Allah. Et voilà, donc tout est bien fait pour que le Maroc rayonne comme étant un hub de la recherche et développement et d'innovation dans la région.
Avec la place de la femme dans ce développement qui est aussi très importante.
On en est très, très fiers. On est aujourd'hui à presque quasi parité homme-femme là où nous sommes. On est dirigé par une femme et il faut en être très fier. Et on a des équipes de scientifiques avec presque 48% de femmes et on s'en réjouit beaucoup aussi.
Eh bien, parfait. Ekram Kantari, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre confiance.
Merci Yasmine, merci de m'avoir attribué cette petite tribune pour pouvoir porter ma petite voix et apporter un peu de lumière au quotidien de toutes les femmes et tous les hommes parce qu'ils font partie c'est la moitié de notre société et puis la femme elle mérite sa place pour pouvoir faire construire une société bien sereine et stable et équilibrée.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.